Bulle d'histoire. Hein ? Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Art District. C'est le grand retour des bulles d'histoire sur nos ondes. Et je commence cette nouvelle saison avec un scénariste qui est aussi un copain, on peut le dire. C'est pour ça qu'on va se tutoyer. Parce que vous voyez, un copain, c'est toujours compliqué. Donc je reçois par les ondes de Skype Antoine Ozanam, donc scénariste de bande dessinée. Bonjour Antoine, et je suis ravi de t'avoir au bout du fil et au bout de l'ordinateur, puisque pour tout dire, on est à la fois sur Skype et par téléphone, parce qu'on a un problème de haut-parleur.
Bonjour, bonjour.
Donc, tu es scénariste, tu as déjà une longue carrière et riche derrière toi, avec pas mal d'albums, surtout sur des thèmes très variés. Ça, on va en parler à un moment donné, comment on passe d'une sorte d'heroic fantasy avec Claw jusqu'à Wilderness, qui est l'album dont on va parler aujourd'hui. En deux mots, Wilderness, c'est l'histoire d'un vétéran de la guerre de sécession. Mais quand on a dit ça, en fait, on n'a rien dit du tout. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Wilderness et surtout nous parler, pour commencer, du roman qui l'a inspiré ?
Oui, alors voilà. On commence par le commencement. Un jour, j'ai lu ce roman qui est de Lance Weller. Et hasard total, je fais une petite chronique sur Facebook du roman, et mon éditeur chez Soleil fait la même chose au même moment, et on rigole, on se téléphone, et je lui dis ce qui serait vachement marrant, c'est qu'on fasse l'adaptation. Pour moi, c'est un roman assez bizarre, puisque c'est à la fois un western, et à la fois effectivement une chronique de guerre. Je trouve que c'est un western complètement nihiliste et ça m'a un peu renversé, quoi. Donc voilà, et comme Jean Vaquet, pour pas le citer, m'a dit allez, j'essaye, voilà, on a fait ça pour se marrer au départ, en fait, pour par envie, pas pour en vendre ni quoi que ce soit, et puis il se trouve que la sauce est à prise et c'est tant mieux.
Alors, qu'est-ce que raconte Wilderness ? Parce que le propos est relativement simple, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui est arrivé un peu au bout de sa vie, au bout d'une vie quand même très très compliquée et très très dramatique. Mais en même temps, l'intérêt du roman, au-delà de raconter l'histoire de quelqu'un, c'est aussi une narration qui est extrêmement puissante et extrêmement originale.
Oui, alors en fait, c'est les derniers jours de vie du personnage principal. Il sent bien que c'est fini pour lui et il se dit qu'il va rentrer chez lui parce qu'il est assez loin. Et plus il avance dans cette quête de son chez lui, et plus il a des souvenirs de ce qui l'a amené justement à s'éloigner, et notamment de la guerre de sécession. Et donc on va avoir un chapitre sur deux qui est sur ses flashbacks de la guerre de sécession, et l'autre chapitre c'est sur son voyage vers la fin.
Alors l'intérêt, j'ai lu le livre de Lance Weller. Oui. On retrouve de façon très 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 charnelle la narration de Lance Weller. Donc on est à la fois dans la BD et dans du romanesque de très très haut niveau. Comment la bande dessinée peut se couler dans cette narration ?
Pour moi la seule difficulté c'était le nombre de pages. Parce que on m'aurait donné 100 pages de plus, je pense que j'aurais fait mon bouquin idéal. Mais bon, il y a des contraintes de pagination, d'argent aussi, etc. Donc, il a fallu couper dans le gras. Mais quand j'ai lu le roman, de toute façon, je savais que si je l'adaptais, je restais fidèle à ça, c'est-à-dire cette espèce de temps en temps, on est paumé parce qu'il y a des personnages qui viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, etc. Puis on apprend à les connaître pendant ce chapitre-là. et puis ils reviennent, et puis voilà. Donc en fait, il faut se laisser porter, et en fait, ce que j'aurais pu faire, si j'avais été vraiment fou, c'était d'adapter sans l'avoir lu une première fois. Et ça aurait été un truc assez incroyable, parce que j'aurais été vraiment dans la lecture principale du lecteur, quoi, d'être vraiment paumé et ne pas savoir quels étaient les ingrédients qui étaient importants ou pas. Parce que je trouve que c'est ça qui est important dans son roman, c'est qu'il arrive à, de temps en temps, parler d'un personnage qui, en fait, est un personnage secondaire, mais qu'on va avoir quand même pendant assez longtemps à cette page. Et moi, il a fallu que je coupe un peu dans le gras, et c'était toujours un peu dommage.
Oui, il y a le dessin de Bandini qui soutient ça et qui permet de suivre quand même la narration. On va parler du dessin, parce que lui aussi il fait beaucoup pour le succès et la qualité de l'album. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage qui est pas un personnage franchement sympathique d'un premier abord, même d'un deuxième abord d'ailleurs?
Tu disais tout à l'heure que je passais du coq à l'âne, mais de façon beaucoup plus élégante que moi, sur mes scénarios. Mais en fait, je crois qu'il y a toujours un fil, c'est la deuxième chance. C'est-à-dire, les secondes vies de personnages m'intéressent énormément. D'ailleurs, dans la vie, c'est à peu près la même chose. Je suis attiré par les gens qui ont fait quelque chose, et puis tout d'un coup, ils lâchent tout pour changer de métier, pour changer de pays ou n'importe quoi. Je trouve ça toujours super intéressant. Et dans le roman, il y a complètement ça, en fait. Il y a un mec qui est sudiste et un peu, j'allais dire bas de plafond, mais c'est pas méchant du tout. C'est juste qu'il est dans son époque, il se pose pas les questions. Et puis, il a pas rencontré les bonnes personnes pour se poser les bonnes questions. Et plus il avance dans sa guerre de sécession, et plus il s'aperçoit que tout n'est pas blanc et noir, humour. Il apprend, il vit, et puis il le dit d'ailleurs au début du roman et d'ailleurs au début de la BD, c'est j'ai dû être un beau salaud, parce que oui, il a agi comme un crétin, plus comme un salaud. Donc voilà.
Oui, c'est un tout jeune homme au début, et il est pris, comme tu dis, par l'histoire et par le flot de l'histoire. Et il n'a pas vraiment de limites, mais ça, il va les apprendre au fur et à mesure. Il y a une chose que je trouve très très réussie dans cet album, c'est que déjà, il faut le lire plusieurs fois, parce que à la première lecture, on est totalement perdu. Il faut y revenir. Il y a peu de bandes dessinées qui obligent à cette rigueur et à cette replongée. Mais il y a une chose qui est très bien réussi, c'est que tout l'album est pour moi une course-poursuite, mais une course-poursuite très très lente. On est tout le temps englué dans quelque chose, on a l'impression que ça n'avance pas, et pourtant il faut que ça avance, parce que il poursuit quelque chose, soit il est lui-même poursuivi par autre chose, mais tout va très lentement.
C'est bizarrement, d'ailleurs c'est pour ça que dans le premier chapitre on a pris vraiment notre temps, c'est que moi j'avais envie de faire des choses assez contemplatives. On parle de forêt, on parle de paysages de mer, en face de l'océan, etc. On a envie de passer une, deux, trois pages à regarder les mouettes voler, quoi. C'est le côté Hugo Pratt de l'album. Non, parce qu'en fait, je trouve que moi, Bandini a tout pigé à Hugo Pratt. À un moment piqué un de ses traits, il pique cette atmosphère de « Allez, on va prendre du temps ». Alors que effectivement, on avait que 150 pages, pour faire le bouquin. Mais voilà, c'est ouais, on voulait prendre notre temps. Et d'ailleurs, le roman, je pense qu'il est un peu comme ça aussi, ouais.
Il prend son temps, mais ce qui est aussi l'autre, vraiment, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça s'entend, c'est que c'est un dessin très nerveux. On est souvent très très proche du croquis de quelques lignes jetées comme ça sur la page. Bon, après, on a aussi des images très léchées, notamment des portraits et quelques paysages dont les couleurs sont assez envoûtantes. Comment s'est fait cette adaptation du dessin au scénario ou du scénario au dessin, c'est un dessin très particulier.
Alors, en fait, Johan, c'est mon frère. Hein. Alors, c'est pas mon vrai frère, mais c'est un dessinateur que j'ai rencontré via un forum qui n'existe plus, d'auteur de bande dessinée. Et on s'est parlé pendant assez longtemps avant de se voir. Et moi, je comprends complètement son dessin. C'est-à-dire que c'est là où je dis qu'on est frères, c'est que je... Dès que j'ai une image en tête, je sais que je vais lui écrire et qu'on est assez proche dans les atmosphères qu'on aime pour qu'il retranscrive en beaucoup mieux ce que j'avais en tête. Et du coup, je crois que c'est moi qui lui ai proposé de faire les flashbacks en noir et blanc ou en tout cas en bicro, quelque chose de beaucoup plus spontané, beaucoup plus rapide, et que tous les moments où on parlait du vieux monsieur et qu'on avait plus de paysages et donc des choses beaucoup moins rapides dans la narration, à ce moment-là, on le faisait en couleur. Et il a fait son job. Bandini, c'est une Rolls Royce. C'est le type, on lui marque juste que le personnage principal traverse la forêt et il nous fait un truc avec la forêt, avec l'été indien, les petites feuilles de toutes les couleurs, là, et tout. C'est waouh! Et donc, c'est un plaisir. J'ai bossé 3 albums avec lui. J'attends le 4e avec impatience parce que. On prend notre temps à chaque fois, mais c'est un plaisir intégral de bosser avec un type qui comprend autant qu'il se met au service en fait du scénario à chaque fois. Ça lui coûte beaucoup, hein. mais dans le sens où je suis pas gentil parce que je lui mets pas toujours des trucs super faciles à faire, mais ça lui coûte beaucoup, donc il prend son temps, mais nom de Dieu, à chaque fois c'est formidable.
Il a aussi, c'est lui qui a fait la couleur ou pas ?
Oui, il fait tout.
Un talent de coloriste qui est, je trouve très déroutant là aussi, parce qu'on s'attend pas à ses couleurs à chaque fois.
En fait, il est assez instinctif. Son dessin est instinctif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il doute. Donc, il recommence beaucoup. Mais ce qu'on a comme final, c'est quelque chose de très spontané, en fait. Et comme il est instinctif, il teste plein de choses. Et du coup, de temps en temps, il y a des erreurs. Et on est d'accord sur que l'erreur est formidable. Et donc, on garde l'erreur.
Et oui, je le regarde en même temps. Effectivement, il y a ces pages avec les Indiens en couleur qui sont absolument merveilleuse, les pages de mer, les pages de canoë, enfin voilà, c'est un enchantement absolu. Est-ce que pour faire cet album, tu as discuté avec l'auteur américain?
Oui, alors c'était magique, parce que moi je croyais pas que Jean Vaquet aurait pu choper les droits. À vrai dire, je l'ai lancé ce défi-là en rigolant. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'édition, acheter des droits d'un livre qui n'a pas été un énorme succès, ça se fait pas trop. Là, on l'a fait juste pour le plaisir, et du coup, j'ai pu parler avec l'auteur. Et à la fois, c'est hyper... hyper flippant, il n'y a pas d'autre terme en fait, je crois, parce que on a quand même une responsabilité quand on envoie les pages en disant tiens regarde ce que j'ai fait là, ton chapitre j'ai tout massacré, j'ai tout découpé, j'ai tout remonté parce que en bande dessinée je pouvais pas prendre autant de temps que toi, et que on attend fébrilement la réponse. C'est quand même assez dingue. Il se trouve que Lance Weller est un fan de bande dessinée, enfin de comics parce qu'il vit aux États-Unis, mais de bande dessinée. Et du coup, on a pu avoir des conversations sur l'adaptation, sur son roman à lui et sur les comics. Donc, au bout d'un moment, c'était un plaisir de lui envoyer. J'avais plus peur. Je savais que je pouvais me permettre plein de choses. Et je lui envoyais et il me disait « Ah, c'est super !» Et donc, ça motive à continuer. Et puis, quand il voyait les planches de Bandini... qui sont pas forcément ce qu'on trouve aux États-Unis, c'était encore un autre truc, quoi. C'est que on voyait le gamin qui disait ah mais c'est moi qui ai écrit ça au départ, ouais.
Oui, parce que le bouquin n'a pas eu, forcément eu un grand succès commercial, mais il a eu un vrai succès critique, un vrai succès d'estime.
Avec C'est ça. Alors, il a eu un bon succès en France, dans le sens où il est devenu en poche, etc. Donc, suffisamment pour avoir une belle carrière, avec plusieurs éditions, etc. Mais aux États-Unis, terre première, c'est pas un bouquin qui s'est vendu à des milliers et des cents, et c'est pas, enfin c'est moins évident que plein de romans dont on adapte en se disant bah puisque ça fait 300 000 de ventes, on va récupérer ça en bande dessinée sans se poser la question de l'histoire, juste en regardant les chiffres de vente. Donc nous on a fait le totalement l'inverse.
Je vais revenir sur le titre, parce que j'aime beaucoup ce mot, moi, Wilderness, qui est un mot qu'on retrouve dans les westerns, dans les films sur la guerre de sécession. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la Wilderness?
Alors, du coup, je fais la même erreur que toi, je dis Wilderness. En fait, c'est Wilderness, c'est la forêt. C'est une forêt où il y a eu une bataille qui a été une bataille sanglante, sordide aussi, généralement ça va avec, qui a été pas un pivot, mais quand même un bon moment de la guerre de sécession. Et donc c'est donc dans cette forêt où normalement notre personnage principal, qui s'appelle Abel, a beaucoup beaucoup de chance. Tous ses camarades qui sont aiment bien charger à côté de lui, parce qu'ils se disent que lui, comme il a beaucoup de chance, si on reste à côté de lui, on n'a pas de boulets de canon qui vont nous arriver sur nous ou quoi que ce soit. Et bah, il perd sa chance à ce moment-là. Mais pour moi, en fait, il trouve son humanité. C'est ça qui est vachement fort dans le roman, et j'espère l'avoir un peu sorti dans la bande dessinée. C'est que c'est au moment même où il perd sa chance qu'en fait, il comprend tout.
Oui, c'est aussi dans Wilderness, il y a la notion un peu de sauvagerie. Et...
Ah oui, non, mais voilà. Alors, c'est ça qui est formidable dans le titre. C'est que c'est pour ça qu'on le dit Wilderness. C'est, normalement, c'est la sauvagerie totale, oui. Et c'est bizarre quand même que cette forêt qui s'appelait comme ça avant, il y ait eu cet acte de guerre de sécession qui était d'une sauvagerie, enfin c'est une boucherie en fait, clairement.
Oui, parce que l'histoire se passe à la fin du 19e siècle, donc la guerre est passée depuis une petite quarantaine d'années.
Oui.
Et les États-Unis sont justement en train de, entre guillemets, de se civiliser. Mais là, on a une vision des États-Unis et de l'Amérique, même plutôt que des États-Unis, mais de l'Amérique, qui est d'une sauvagerie totale. L'insécurité est partout, pour les vieux, pour les femmes, pour les noirs. Enfin, c'est assez terrifiant.
Bah, c'est les dernières heures du Far West, en fait, hein, dans le sens où 1900... Alors, je dis ça parce que je suis sur un autre scénario, qui est exactement sur le même truc, donc je maîtrise bien le sujet. C'est 1900, on commence à avoir à la fois des voitures et des volontés de faire des routes, des buildings, des machins, des bulles, comme ça. Et d'un autre côté, dès qu'on quitte la grande ville, ben on n'a que de la boue et on a encore la loi du plus fort, parce que de toute façon, même les marshals, ils sont là, mais ils sont payés à l'acte. Enfin, c'est vraiment de la folie totale à ce moment-là. Il n'y a pas une réelle démocratie propre.
Non, en tout cas, l'auteur n'est pas du tout dans un monde démocratique, puisqu'il vit tout le temps dans la forêt, dans les rivières, dans les montagnes. Voilà, il y a aussi ce côté un peu paradis perdu, quoi.
Oui, oui, ben, moi j'aime beaucoup, ça revient au truc d'enfance, c'est pour ça que quand j'ai lu le roman, j'aimais bien. Moi je me suis toujours fantasmé en espèce de grand-père de Heidi. le mec un peu bourru au fin fond de sa montagne, et puis en fait il est sympa, mais personne ne le sait, parce que au départ il dit dégagez de là, et en fait Abel c'est un peu ça quand même, c'est un type qui a bien vu l'humanité en face et qui après tout préfère son chien et l'océan.
Bah Antoine, on s'est presque tout dit sur Wilderness. Maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de le lire. Voilà.
Oui, tant qu'à faire.
Non, il faut absolument se précipiter chez les libraires pour le retrouver. Wilderness, donc, c'est publié par les éditions Soleil. Le scénario, c'est donc Antoine Ozanam. Le dessinateur, c'est Bandini. Pour 18 euros, ce qui est quasiment donné, comme à chaque fois.
Oui, je dirais rien là-dessus.
Antoine, je te remercie et puis je te dis à bientôt pour un nouvel album.
Ouais, super. À très bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh.
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.